media, one, con media, one, deadly media, one, con media, one, deadly media, one, con media, one, deadly media, Bienvenue sur France.indymedia.org, première émission de radio qu'on essaye de monter avec Indymedia, la technologie de la libération. Donc une émission où on va pouvoir retrouver des points de vue sur droit au logement, ce qui se passe en ce moment. De retour de Québec, hein, quelle est l'actualité là-bas, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et puis avant tout, pour présenter Indymedia, Gilles, Mathias, vous êtes... disons les fondateurs de Indymedia France. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis combien de temps?
Alors Indymedia a été créé en août dernier à Millau. Indymedia fait partie d'un réseau de sites anti-mondialisation qui a été créé à Seattle en 99. Aujourd'hui, il y a à peu près 55 sites dans le monde et donc le site français a à peu près un an.
Une information différente, une information indépendante. Qu'est-ce que c'est Indymedia exactement, Mathias?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est indépendant. On est indépendant de tout. On n'a pas de financement. Et puis surtout, c'est du contributif. C'est-à-dire que c'est les internautes eux-mêmes qui peuvent publier sur Indymedia textes, photos, vidéos, sons. Il n'y a pas de censure. C'est en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. Chacun peut s'exprimer. Et surtout, on peut pas dire il y a pas de ligne, mais simplement on n'est pas obligé d'être dans une ligne. Les gens sont pas d'accord les uns avec les autres. Ils publient un texte. Ceux qui ont quelque chose à dire sur ce texte rajoutent un commentaire. Donc il y a pas de, c'est vraiment un site d'expression, un site d'information indépendante. C'est-à-dire que c'est pas des journalistes qui dépendent d'une ligne éditoriale, qui dépendent d'un journal qui a ses propres, qui a des revenus publicitaires, qui a des devoirs vis-à-vis des annonceurs. Nous, on a de devoirs vis-à-vis de personne. Donc, les gens peuvent être pas d'accord entre eux. En général, ils le sont pas. Et des fois, on n'est même pas d'accord entre nous. N'est-ce pas, Gilles?
Avec un ennemi?
Avec beaucoup d'ennemis, comme d'habitude, on a énormément d'ennemis. Bon, mais on a aussi beaucoup d'amis. C'est surtout, on est très écouté par la police. Enfin, la police nous regarde parce que ils ont des idées à trouver chez nous, quoi.
On leur dit un grand bonjour, peut-être. Et puis on leur dédicace le premier disque ce soir. Et puis on se retrouve donc tout de suite pour la première de Indymedia version radio, avec une balade du côté du Québec, des manifs anti-mondialisation, l'actualité de droit au logement, et puis tout le reste d'Indymedia.
Ouais, mon petit Pujol. Il vient à l'instant de sortir du studio, alors qu'est-ce qu'on fait, là?
Bon, cette fois-ci, vous me les perdez pas. Il y en a marre qu'on passe pour des cons.
Mais pas trop, la dernière fois, c'est pas de notre faute.
J'en ai rien à foutre, il n'y a pas de dernière fois. On a changé les bagnoles, non? Alors je te préviens, Pujol, si tu les paumes, tu te retrouves en képi avec un sifflet dans la gueule au milieu du carrefour. On s'est bien compris, Pujol.
Ouais, patron.
Papier contrôle l'identité formule devenue classique à laquelle tu dois t'habituer. Seulement dans les quartiers les condés de la métro, toi on trop pas mais aussi sachez que l'air est chargé d'électricité.
Alors
pas de respect, pas de pitié, escomptez vous aurez les regrets. Jamais par la répression vous n'obtiendrez la paix.
La paix
de l'âme, le respect de l'homme. Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand il passe l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable camp organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités.
Port d'armes autorisées malgré les graves énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancé,
souvent mentalement retardé.
Le portrait type, le prototype du pont type. Voilà pourquoi dans l'excès le zèle ils excellent. Voilà pourquoi les insultes plus qu'en passe les hirondelles. Pour notre part ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils.
Police, machine matrice, des cervelets mandats.
Police,
par la
police,
machine sur la tête, jeter les mandats. Puis par la justice sur laquelle je pisse.
Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre des maléfiques qui pour moi ne sont signes que d'emmerde. Regarde, je passe à côté de tranches de cons deviennent nerveux.
Oh, contrôle de police, monsieur.
Systématique est la façon dans l'histoire. Se compris, pas le bon mes poches, plus me presse sans les balages. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Portant atteinte à leur gommage.
Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, yo idiot.
Donne-moi les balles pour la police municipale. Donne-moi un flingue.
encore une affaire étouffée. Un dossier classé rangé. On va prendre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomatie business la bedo. Alors on en perd, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de Toshi. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
Écoutez, moi j'ai plus confiance.
Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au moins de ma vie. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal, et du coup, les portes de leur port, un peu moins de désordre. Police, machine matrice, des cervelles, les mandatés par la justice. Sur la tête, je sais, les mandatés par la justice, sur laquelle je pisse.
Du 93 à Saint-Saint-Denis, Chicago, Vice. Pas des récidivistes, mais pas très révistes. Je t'envoie la puissance, conservant mon avance. Tout en transcendance, un âme, je le tous les flics de France. Mercenaires, fonctionnaires, au sein d'une milice prolétaire, terriblement dans le vent. Trop de guerre à terre pour qu'ils tombèrent, ou même me taire. Récupère aux héréditaires qui depuis trop longtemps prolifèrent. Contribuant à la montée de tous les préjugés, et malheureux pour enflouer l'animosité des poudrières les plus précaires, considérées secondaires par les dignitaires d'un gouvernement trop sédentaire. Et d'une justice dont la bâtisse est trop factice. Pour que si ils jouissent sans envie, nos voix approbatrices. Mais sincèrement, socialement, quand il est fait autant.
France.indymedia.org, la technologie de la libération. Tout de suite, Mathias, bon anniversaire. Bon anniversaire, happy birthday to you. Tu peux chanter peut-être un petit peu?
Non, je vais pas chanter sur ce sujet.
15 ans, hein, depuis Tchernobyl. Un discours qui commence peut-être un petit peu à changer. On commence à se rendre compte que, eh ben, on commence peut-être à reconnaître qu'en effet, il y a eu beaucoup plus de dégâts que ce qu'on a pu dire à l'époque. Dans la presse, pas grand-chose. Toi, tu es là justement. Qu'on en parle un petit peu.
Donc en fait, il y a eu un colloque jeudi, c'était l'anniversaire de Tchernobyl, c'était les 15 ans de Tchernobyl, le colloque s'appelait Vérité Interdite, hein. Et donc il y a eu un certain nombre de scientifiques qui sont exprimés, il y a eu un certain nombre de documentaires qui ont, de sujets qui ont été faits par des scientifiques russes, et ce qu'il en ressort est assez catastrophique. Donc j'ai interviewé par téléphone tout à l'heure une des scientifiques qui s'est exprimée, et alors ce qui se passe, pour résumer de manière brutale, par exemple, sur deux des trois principales républiques qui ont été atteintes, par exemple l'Ukraine et la Biélorussie, là-bas, les chiffres qui circulent, c'est 15 à 30 000 morts dus à Tchernobyl. Il y a eu environ 600 à 800 000 liquidateurs qui sont intervenus pour liquider les conséquences de la catastrophe. Donc ces liquidateurs, c'était des militaires, c'était des mineurs, je me rappelle plus la région dont ils venaient. Ils sont intervenus pour éteindre le réacteur en feu, ils sont intervenus pour enlever la plupart de la contamination qui était retombée aux alentours du site. Et il semblerait que sur ces 600 à 800 000 liquidateurs, il y ait 30% qui soient déjà ou morts ou invalides. Donc 30% de 600 à 800 000, ça fait quand même 180 à 240 000 ou morts ou handicapés. Donc, alors c'était absolument dramatique, hein, ce que j'ai entendu. J'ai vu des enfants leucémiques, j'ai vu les liquidateurs, ils sont dans les fauteuils à roulettes, ils sont incapables de marcher. Il y a des gens qui vivent sur des territoires contaminés, ils sont obligés de se tenir au mur parce qu'ils ont des vertiges. Les enfants ont des saignements de nez, ils sont incapables de suivre des cours parce qu'il y a des atteintes neurologiques. Les liquidateurs ont un espèce de vieillissement du cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant entre 35 et 40 ans, et ils ont un cerveau de quelqu'un de 70 ans qui aurait un début de maladie, donc perte de mémoire, enfin bon.
Est-ce qu'on reconnaît ces maladies pour le moment? Pas du tout, bien sûr.
Alors, c'est assez ambigu ce qui se passe. C'est en même temps, l'Ukraine et la Biélorussie ont besoin d'argent. Donc, ils sont prêts, ils reconnaissent qu'il y a eu un certain nombre de morts, qu'il y a des victimes, qu'il y a des gens handicapés, qu'il leur faut de l'argent pour reloger des gens. Et en même temps, ils peuvent pas tout dire, parce que il y a un cinquième du territoire qui est contaminé, donc reloger les gens, c'est impossible. Et ça serait aussi désavouer leur propre administration, ou l'administration précédente, qui était l'administration communiste, ou enfin l'Union soviétique, dont ils se faisaient même partie. Donc ils peuvent pas dire que c'est absolument ingérable, incontrôlable, et que qu'il n'y a rien à faire. Donc ils demandent de l'argent aux Occidentaux, mais en disant un peu, mais pas trop.
On n'en parle pas dans les journaux du tout, pourquoi?
Alors, si, on en parle dans les journaux, Mais dans les journaux, disons qu'il y a peut-être une petite flemme de la part des gens qui écrivent les articles, c'est-à-dire qu'ils vont demander aux officiels en France qu'est-ce qui s'est passé. Et les officiels, c'est l'Institut de protection contre le rayonnement ionisant, c'est l'IPSN, c'est donc nos officiels à nous qui sont là pour la promotion du nucléaire. Donc eux n'ont pas intérêt à dire trop de choses. Donc pendant des années, ils ont maintenu qu'il y avait eu 31 morts, c'est-à-dire en fait les premiers, les pompiers qui sont intervenus, qui eux sont, en fait ils sont intervenus, ils sont montés sur le toit avec leur lance pour éteindre directement le brasier nucléaire. Donc ces types-là sont restés sur le toit pendant une demi-heure, ils ont été pris de vomissements, ils ont été directement à l'hôpital, et ils sont morts dans les semaines qui suivaient. Mais en fait, il y a eu beaucoup plus de morts que ça.
Qu'est-ce qu'il faut faire justement si on écoute tout de suite france.indymedia.org? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que ça se sache un petit peu plus et puis pour aider surtout?
Alors pour aider, aider, il y a pas, c'est difficile à dire. Il y a un certain nombre d'associations comme qui s'occupent des enfants. Donc en fait, les gens essaient d'envoyer les enfants au vert, c'est-à-dire on les envoie en Occident, on les envoie en Allemagne, on les envoie en fait pour c'est pas des camps de vacances, c'est en fait des camps. Pour que on les envoie en colonie pour qu'ils arrêtent d'ingérer de la nourriture contaminée. Parce qu'en fait, il y a environ 9 millions de personnes qui vivent sur des territoires contaminés et ils sont en permanence, ils sont recontaminés, donc ils ont une charge en radionucléides permanente et le seul truc qu'on peut faire pour eux, c'est essayer qu'ils en aient moins. Mais il faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire même si on fait baisser la charge corporelle qu'ils ont pendant un certain temps, les risques de cancer et de leucémie, ils les auront tout le temps. Chez les enfants, il y a aussi des enfants qui ont même pas 10 ans et qui sont atteints de cataracte. Il y a aussi énormément d'enfants qui sont atteints de troubles cardiaques. Donc c'est une des choses qu'il y avait pendant la journée, ils ont fait parler donc des scientifiques qui ont travaillé là-dessus et qui ont montré qu'il y avait une corrélation évidente entre les maladies cardiaques chez les enfants et la dose de radioactivité, enfin la contamination qu'ils ont subie. Et en fait, ils ont été mis en prison, évidemment. Et ça fait que c'est des enfants qui ont alors des fois entre 1 an et 3 ans et qui sont cardiaques. Donc qu'est-ce qu'on peut faire?
Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
What were the skies like when you were young?
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
Thank you.
always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, me, because I used to look at them all the time. You don't see that. You might still see them in the desert.
On vous l'avait dit en début d'émission, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté du Québec. Raphaël de Indie Media était là-bas. Il a escaladé des grillages au péril de sa vie. Il a réussi à pénétrer la cité interdite.
Pas tout à fait, malheureusement. Mais...
Alors raconte-nous justement.
Bon, alors pour mettre un peu les choses au point, c'est une chose qu'on sait pas très bien déjà en France parce que les médias en parlent pas beaucoup. Il y avait un mur autour du quartier où les délégués se réunissaient pour discuter de choses que de toute façon. Personne ne connaissait, puisque ça s'est fait dans le plus grand secret, ça a été absolument pas décidé démocratiquement, aucune assemblée, enfin aucun pouvoir législatif, c'est-à-dire aucun élu n'a été informé de quoi que ce soit sur les tenants et les aboutissants du traité, aucun contrôle démocratique d'aucune sorte.
Voilà. C'est très secret tout ça. Hein.
Ouais, c'est très secret et bon bah le truc qui symbolisait bien le secret, c'était justement ce mur qu'ils ont construit pour éviter tout débordement et toute velléité de mettre la chose sur la place publique. Ça consistait tout simplement à nous parquer autour du quartier où se réunissaient les gens pour être tranquille. Le mur consistait en un bloc de béton d'1,50 m surmonté d'un gros grillage, ça atteignait les 3 mètres. Bon bah voilà, c'était leur dispositif tactique. Il y avait quelque chose comme 6 ou 7 000 policiers, je crois, plus 1 000 militaires. Bon bah avec un mur pareil, ils savaient très bien qu'on pouvait pas faire un gros coup d'éclat, en tout cas sur le principe qui était plus ou moins de faire masse, en tout cas dans la manif. Donc ça c'était le truc de base. Malgré tout, évidemment, c'était extrêmement encourageant parce que la mobilisation était très très bonne. Il y a d'autres trucs qui étaient encourageants. Enfin, alors c'est assez compliqué parce que pour nous Français qui sommes habitués à toujours ces disputes dogmatiques et compagnie, là on s'aperçoit vraiment que c'était un mouvement qui s'est forgé une solidarité autour de luttes concrètes, qui s'est construit à Seattle. Et après à Washington et à d'autres occasions de ce type. Donc ils ont tous un vécu commun, ils ont des pratiques communes, ils ont une envie de collaborer, quel que soit leur penchant, que ce soit les plus violents ou les plus pacifiques, ceux qui sont complètement orientés vers l'expression, vers la déconne, vers la fête, ou qui soient complètement orientés au contraire vers l'action physique, l'engagement, tant pis si on se fait arrêter, tout ça. Tous ces gens-là ont travaillé main dans la main, il n'y a pas eu de tentative de sécession ou quoi, ça s'est passé. C'était codé, donc ça fonctionne par groupe affinitaire, c'était codé, c'est-à-dire... Ça commençait, c'était un code de couleur vert, c'était les pacifiques, jaune, c'était les actions de blocage, c'est-à-dire les gens qui étaient prêts à, disons, assister les plus chauds à éviter les flics. Et il y avait une fraction qui était plus chaude. Et Bon, ça passait.
C'était en quelle couleur alors?
Alors c'était les rouges. C'était les rouges. Mais c'était les rouges et c'était les noirs. Tout le monde est noir de toute façon là-bas. C'est le truc théoriquement. Tout le monde est anarchiste. Bon, alors je sais pas. C'est quand même un anarchisme assez décontracté parce que pas du tout doctrinal et enfin ça c'est pas du tout fermé. C'est vraiment une culture d'ouverture vers l'action.
Est-ce que tu peux nous parler de scènes que tu as vues, de moments que tu as vécu là-bas où t'as justement senti qu'il se passait vraiment quelque chose?
Comment dire? Alors, c'est assez compliqué. Il y a des trucs qui résument, qui symbolisent assez bien la façon dont ça s'est déroulé avec les flics. Bon, ce qu'on peut dire de l'ambiance à l'atmosphère de Québec, elle était lacrymogène, hein, pour résumer le truc, tout simplement. Bon, on a beaucoup joué avec nous, on a joué avec nos poumons et avec nos yeux, quoi. Bon, on était vraiment la foule jetable et manipulable à volonté. Donc ils étaient derrière leur truc, ils faisaient quelques sorties une fois de temps en temps, et là à un moment, bon, le type de truc qui se passait, c'était un cordon de flics en face, une foule tout à fait hétérogène dans ses désirs, quoi. Qui collabore parfaitement, quoi. Bon, là à un moment, c'est trop rapproché d'eux, ils se sont dit bon, on va les éloigner. Alors ils avaient leur petite lacrymogène locale qui leur permettait de constituer une espèce de no man's land. Bon, et à ce moment-là, on a un type alors qui symbolise bien ce qui s'est passé, quoi, parce qu'il était complètement immobile, il a pas reculé devant ses coups de semonce. Il est resté à genoux dans une espèce d'attitude de prière, tête baissée. Il avait des paroles de paix écrites un peu partout sur ses vêtements et il était là tout seul dans son no man's land. On se demandait ce que les flics allaient faire. Bon, et puis à deux reprises, on l'a vu qui se fait shooter à la bombe lacrymogène à bout portant par les flics. Bon, et on se demande même dans quel état physiologique il pouvait être au moment où il a pris la deuxième, quoi. Ça a mis la foule évidemment en émotion. Bon, bah voilà, espèce de sentiment de révolte. Bon,
Unimédia France, en tout cas, était à Québec. À Québec, Raphaël, tu nous l'as dit, tout le monde était noir. Black is beautiful. Les Poets, When the Revolution Comes.
When the Revolution Comes.
When the Revolution Comes.
When the Revolution Comes. When the revolution comes, some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercials. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
Preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem, drowning anything without substance. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
I hope pearly white teeth fall out of the mouths that speak of revolution without reference. The course of revolution is 360 degrees. Understand the cycle that never ends. Understand the beginning to be the end. And nothing is in between but space and time that I make or you make to relate or not to relate to the world outside my mind, your mind. Speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. When the revolution comes.
When the revolution
comes. When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes. When the revolution comes, white death will fall off the walls of museums and churches, breaking the lie that enslaved our mothers. When the revolution comes. When the revolution comes, Jesus Christ is gonna be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy cab out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes, Jew merchants will give away matzo balls and gefilte fish to anyone they see with an afro. Frank Schiffman will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki. When the revolution comes.
When the revolution comes.
Afros gonna be trying to straighten their heads, and straighten heads gonna be trying to wear afros. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
When the revolution comes. But until then, you know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Some might even die before the revolution comes.
Indymedia.org, la technologie de la libération. Deuxième invité, Jean-Claude Amara, trafiquant d'idéo, qui revient de Québec. Tu es porte-parole de Droit Devant et tu reviens donc du Québec, d'une ville encerclée. C'était comment? C'était quoi l'ambiance là-bas?
Bah, l'ambiance était particulièrement offensive, positive, parce que on pensait que 20 000, 25 000, 30 000 personnes auraient été un très gros succès pour cette mobilisation, hein, contre la zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA. Et en fait, c'est plus du double qui était présent, malgré le blocage policier aux frontières qui a fait qu'au moins 10 000 personnes n'ont pas pu pénétrer sur le territoire canadien. Je pense que là, on est dans une accentuation de ces mobilisations en élargissement depuis Seattle, en passant par Prague, Nice, etc. Et que, en définitive, tous ces tenants du libéralisme, tous ces intégristes du capitalisme n'arrivent plus à trouver un endroit où se réfugier pour être en dehors de regard citoyen. Et c'est bien pour ça que le mois de novembre, la prochaine conférence ministérielle de l'OMC aura lieu dans un pays au milieu des sables du désert qui s'appelle le Qatar, dans les Émirats arabes, pour échapper donc tout contrôle, et que probablement est amorcée l'idée, on l'a vu aujourd'hui par le fait que ce milliardaire va aller dans l'espace faire un petit voyage, que les prochaines conférences l'année prochaine auront lieu à Neptune, Mars ou Pluton, quoi. Hein. Voilà, non, mais c'est bien pour dire qu'aujourd'hui, ces mobilisations posent de réels problèmes à ces manipulateurs, à ces tireurs de ficelles que sont les Donald Johnston et autres de ce libéralisme effréné, et que il y a des lézards, effectivement, dans la citadelle qui sont en train de se mettre en place.
Ouais, Jean-Claude, ce qui est intéressant aussi dans les différentes manifestations antimondialistes qu'on a vues depuis Seattle, c'est que se met en place une nouvelle pratique de la politique et une nouvelle pratique de l'agitation politique. Est-ce que je t'avais vu faire une conférence, c'était à Millau, quand on a ouvert le site Indymedia, sur les nouvelles pratiques politiques. Est-ce que depuis un an, il y a du changement dans la façon de s'opposer à des lois qui nous dépassent, parce que ce sont des gens quand même qui se réunissaient jusqu'à maintenant en pleine confidentialité partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a toujours 10, 20, 30, 50, 100 000 manifestants contre eux. Est-ce qu'il y a des méthodes différentes maintenant de se réunir?
Moi, ce que je voulais dire déjà, dans un premier temps, ce qu'on a réussi à faire, et ce qui n'est pas mince, c'est de donner du concret à ce qu'ils veulent rendre invisible. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis convaincu que l'idéologie capitaliste, libéraliste, se complaît et ne peut avancer que dans l'opacité. Le fait de les avoir débusqués dans leur tanière, le fait d'avoir donné des visages à des gens qui restent dans l'ombre depuis des dizaines d'années, je crois que déjà, c'est un premier pas. Donc, il y a plus de moins en moins de virtualité, dirons-nous, par rapport aux citoyens. Et c'est vrai que les gens qui se battent contre ce système d'oppression, cette machine à broyer les droits, il leur faut aussi du concret. Il faut savoir qui on va aller chercher. Et effectivement, là, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à se réfugier. Hein, et ça, je pense que c'est très important. Deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle forme, enfin, peut-être pas forcément une nouvelle forme, c'est une forme qui déjà s'est mise en place depuis plusieurs années, mais qui a tendance aujourd'hui à s'étendre et que moi, je trouve en tout cas très positive. C'est cette notion, à partir notamment de cette jeunesse qui se mobilise, qui se lève. Hein. Moi, je vois à Québec, hein, une majorité énorme de ces mobilisations étaient des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Et qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui ne veulent en tout cas s'écarter des schémas classiques, des schémas traditionnels, du centralisme syndical, du centralisme de l'appareil politique, du centralisme de grosses organisations, ONG, etc. Et qui pratiquent surtout par une notion de transversalité, d'affinité et d'élargissement qui est basée aussi beaucoup sur la tolérance, sur l'ouverture et non pas sur le fait d'avoir affaire à une sorte de bureau dictatorial centralisateur. Et je crois que ces réseaux-là sont en train de prouver depuis Seattle, en passant Prague, Nice, Québec, qui a été remarquable à ce niveau-là, que effectivement il y a une nouvelle génération qui est en train de se lever et qui est en train petit à petit, sans peut-être le mettre de façon très concrète, noir sur blanc, mais certainement de créer une forme de contre-pouvoir tout à fait intéressant en tout cas, et qui réside aussi sur une forme de une offensive et une construction, une construction qui petit à petit est en train de se mettre en place. Il y a un grand tissage, un grand maillage qui est en train de se réaliser. Je crois que c'est très important. Il est international, c'est un mouvement internationaliste. Et moi, je dirais que face à cette globalisation économique, on est en train aujourd'hui de mondialiser les résistances.
Mais alors justement, à quoi est-ce que tu l'attribues, toi Jean-Claude, qui est, j'ai presque envie de dire, un pro du militantisme, à quoi est-ce que tu attribues ce renouveau du militantisme ?
Ah, tout d'abord, faut pas me qualifier de pro du militantisme, parce que alors ça, c'est une chose que j'ai en horreur absolument profonde. Moi, je suis venu il y a 10 ans à cette lutte, je la continue, je partirai de cette lutte de la même façon que j'y suis venu d'ailleurs, simplement par révolte et par conviction que les forces doivent se lier aujourd'hui pour faire échec à cette énorme machine. Donc moi, je me sens pas du tout un pro du militantisme, et je ne le serai jamais.
Je veux dire que tu es quelqu'un qui lutte depuis
longtemps. Oui, tout à fait.
Le sens de ma question.
Tout à fait. Ce que je pense en tout cas, pour répondre à ta question, c'est que toute cette jeunesse qui est en train de se lever, que ça soit par exemple la jeunesse américaine ou que ça soit la jeunesse française dans divers pays, une majorité de ces jeunes ont passé un désert incroyable culturel de lutte depuis des années et des années. Si on voit les manifestations de Seattle, il n'y avait pas eu depuis les années 70 une mobilisation contre la guerre du Vietnam, il n'y avait pas eu de ces mobilisations là donc je crois que ces jeunes sont issus d'un désert culturel de lutte idéologique très fort et qui n'ont surtout pas envie justement de reproduire ce no man's land qui a pu avoir lieu, qui a dû pendant des décennies. Je crois qu'aujourd'hui, justement, la majorité de cette jeunesse ne sait pas forcément ce qu'elle veut, est en train petit à petit de le construire, mais en tout cas, c'est tout à fait ce dont elle ne veut plus ou de ce dont elle ne veut pas. Et je crois que c'est déjà ça le principe même. Et je pense que dans ces mouvements-là, il y a une grande éthique aussi, une grande façon de penser qui est tout sauf de la manipulation intellectuelle et politique. Et je crois que c'est ce sens de l'éthique qui aujourd'hui un des pivots de ces mouvements qui me paraît fondamental pour affronter l'avenir. Et je pense que ça va s'étendre, sincèrement. Je crois que ça va s'étendre.
Mais en même temps que le mouvement s'étend, on se rend compte que la répression aussi s'étend. Et face à nous, on a maintenant l'armée, on a des policiers qui sont de plus en plus violents. On l'a vu à Nice, on l'a vu à Prague, évidemment. On l'a vu là au Québec. Est-ce que ça pose vraiment un problème face à des jeunes ou face à des gens qui se battent pour ce qui leur semble plus juste? On y oppose vraiment de la violence et de la violence d'État.
Ouais, mais c'est pas nouveau, hein. Au même titre qu'il y a la carotte et le bâton, il y a la cagnotte et le pognon, quoi. Je veux dire, il y a la cagnotte et le bâton. C'est-à-dire que il n'y a pas obligatoirement, à partir du moment où il y a une confiscation des richesses qui aujourd'hui n'a jamais été aussi importante par quelques nantis à travers le monde, qui fait qu'aujourd'hui on assiste à une sorte de prolifération luxuriante de quelques petits îlots de richesse au milieu d'un immense océan de pauvreté. Il est évident qu'à partir du moment où ces gens-là commencent à se sentir menacés et un peu fragilisés sur leur édifice qu'ils pensaient inexpugnable, il est clair qu'à partir de ce moment-là, la répression va aller à 5 centurions. Pour nous, en définitive, non-violents, acteurs de ces luttes non-violents actifs, il est clair que cette répression qui s'accentue est un signe de faiblesse. À chaque fois que le bâton s'abat, moi je crois que de toute façon, il va leur revenir de façon redoublée dans la figure. Et je pense que c'est la force des faibles que d'employer cette répression. Ça veut dire qu'en même temps, c'est un constat, un aveu d'échec. Et le fait d'aller se calfeutrer au Qatar, d'avoir 6700 flics militaires qui entourent ce mur de la honte, du Palais des Congrès de Québec ou de Seattle, etc. Je crois que c'est un aveu d'impuissance.
Est-ce que tu peux nous raconter, puisque tu reviens de Québec, toi, ton meilleur souvenir de là-bas, le moment où tu as senti que ça bougeait vraiment le plus ?
Il y a eu beaucoup de souvenirs très importants, très forts d'ailleurs, très offensifs, très très positifs. Hein, mais moi, je me rappelle de ce meeting où il y avait 2000 personnes qui se pressaient dans cet immense chapiteau avec plus de 3000 personnes dehors, où à la fin, on était 7 ou 8 comme ça à prendre la parole. Et puis, à un moment donné, on a dit, écoutez, il y a d'un côté les gros syndicats qui vont aller manifester, mais qui vont tout le nendo au Palais des Congrès et qui vont s'acheminer très loin de ce Palais des Congrès, eh bien nous, on préfère aller directement droit au mur, quoi, droit sur le mur. Et c'est vrai que quand on est parti à la fin de ce meeting, eh bien il y a des milliers de personnes qui ont suivi, on s'est retrouvé à ceinturer effectivement toute cette muraille. Je crois que là, c'était un aspect très offensif, très très important, qui donne aussi une notion qu'il n'y a pas d'avancée de lutte sans trouver l'antidote au poison de la fatalité qu'on essaye d'inscrire dans la tête de celles et de ceux qui subissent aujourd'hui les contre-coups de ce système. Et je crois que ce n'est pas en restant accolé droit au mur en attendant le coup des adversaires d'en face qu'on pourra de toute façon avancer. Je crois qu'il faut aller les provoquer, je crois qu'il faut aller leur rentrer dedans et bien montrer qu'aujourd'hui la légitimité de toute façon, elle est de notre ressort, elle n'est pas de celles et de ceux qui aujourd'hui s'en foutent plein les poches et qui confisquent ces richesses alors qu'il y a une pauvreté, une paupérisation infinie à travers le monde.
Media. France.indymedia.org, la technologie de la libération. En attendant la révolution, on s'organise. Ça sera quoi, Pierre-Emmanuel, la prochaine insurrection ?
Insurrection est un bien grand mot. Là, on démarre avec des paniers bio, enfin de la bouffe bio. Donc, le principe, c'est pour créer un point de diffusion de paniers biologiques qui contiennent des fruits et des légumes. Au départ, il faut être un petit réseau de copains, entre 5 et 10. À partir du moment où on s'engage à prendre toutes les semaines un panier, ça peut démarrer et on est livré par une société qui donc apporte des paniers de fruits et légumes biologiques. Alors pour le petit côté pratique, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir comme fruits et légumes parce que ça suit la saison, ça suit ce qui est disponible, puisque bon, à part les fruits formatés dont on connaît le calibre 10 ans à l'avance, là on ne sait pas si la pluie prochaine va paniquer toute la prochaine récolte de tel fruit et donc on n'en aura pas. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors pour s'organiser, on a des recettes qui sont mises dans les paniers et des recettes assez originales et on découvre pas mal de plats nouveaux. Donc ça, c'est le côté culinaire et agréable.
Quoi par exemple ? Qu'est-ce que t'as découvert ?
Ah par exemple, j'ai découvert le panais.
Le panais,
c'est un légume qui ressemble à un navet un peu, mais rond. Et alors c'est un goût, j'ai un, je sais plus, enfin c'est un mélange de deux légumes, mais j'ai un peu oublié là. Et alors on fait ça avec une béchamel, c'est, bon, c'est assez c'est excellent. Bon. Ouais. Et j'en ai parlé avec un ami qui approche la soixantaine et paysan et qui qui avait complètement oublié que qu'il avait mangé ça quand il était enfant quoi. Et donc c'est, mais comme c'est pas calibré par Bruxelles, sans doute ça n'existe plus dans le, on en trouve que dans les COP bio.
Alors pratiquement.
Si alors maintenant, l'intérêt, écoute, au-delà de manger bio, sainement et compagnie, développer la filière et faire un petit coup de pouce à la filière bio, l'intérêt, c'est que quand on est organisé une dizaine pour démarrer, quand on passe, si on crée une structure associative pour accueillir les paniers, il y a un pourcentage. Et donc là, c'est le côté purement intéressé fric. Qui est quand même important, c'est que sur Arcueil, par exemple, ça nous a permis d'ouvrir un local. Et donc, à partir du moment où on a un local, eh ben, on peut faire nos réunions peinards sans avoir la pression de la mairie post-communiste stalinienne qui essaye de nous bouffer tout. Donc, on est tranquille, on a notre local, et ça devient un lieu de rendez-vous. Donc, les gens passent... alors, comme le bio, ça intéresse tout le monde, enfin, beaucoup de gens, et ça touche pas mal de catégories sociales différentes, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en diffusant nos tracts bêtement à la sortie des RER ou sur les marchés. Là, on rencontre des gens intéressés et on peut parler d'autres choses que du bio et ou autre chose que de la politique. Ou enfin bon, mais disons, on recrée un lieu de convivialité et d'un lieu d'échange, de projets et de voilà.
Et vous parlez de quoi en ce moment là?
Oh ben là, on avait. Moi, j'en profite pour diffuser les pages d'Indie Media. Mais sinon, y a plein de projets sur Arcueil, entre autres une école alternative. Il y a des choses comme ça. Il y a mille et une choses. Il y avait une friche culturelle qui a été squattée quelque temps. Donc voilà, il se passe plein de choses.
Solo media, one deadly media, one con media, one deadly media.
Tout de suite dans l'émission de Radio d'Indie Média, Annie et Philippe, membres de Droit au Logement, agitateurs transversaux, sociaux, c'est ça?
Du mouvement social.
Du mouvement social. Gilles, donc on a invité Annie et Philippe sur l'actualité un petit peu des sans-papiers, du droit au logement.
Oui, non, on voudrait savoir, à quelques mois là, des prochaines présidentielles, où on en est d'une part des sans-papiers, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, et d'autre part du droit au logement. Les dernières élections municipales, on a entendu de la Noé dire qu'il allait racheter des immeubles vides sur Paris pour les donner, pour en faire des HLM ou des logements sociaux. Mais qu'en est-il de la réalité? Donc ma première question, ça sera surtout au niveau des sans-papiers. Et maintenant que Chevènement, depuis le départ de Chevènement du gouvernement, est-ce qu'il y a eu déjà un changement?
Des sans-papiers, non, ils sont toujours dans l'invisibilité, donc je crois qu'il n'y a pas de changement pour les sans-papiers. Ce qui est quand même évident, c'est que depuis la loi Chevènement, il y a eu 100 000 régularisations. Ça veut dire que la lutte d'une infinie minorité de sans-papiers, qui étaient les copains et les copines de Saint-Bernard, ont conduit quand même à une régularisation de 100 000 personnes. Pour autant, on le pose plus de cette manière. On dit pas sans papier, on dit travailleurs sans papier, on dit oui, on parle des hommes et des femmes qui aujourd'hui, pour des raisons économiques, sociologiques, politiques et autres, effectivement, migrent et se déplacent sur les pays du Nord. Donc c'est un petit peu plus, c'est un peu différent. Je crois que le débat est un peu déplacé. Puis en plus, 97, c'est loin. Je veux dire, la régularisation dans le cadre de la loi Chevènement, c'est terminé. Quoi. C'est terminé. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui arrivent sont pas concernés d'ailleurs par la régularisation de 97. Donc nous, on a une autre analyse politique. Et on porte le débat politique à un autre niveau que l'après-chevènement. Après tout, chevènement a été remplacé et on n'en a rien à péter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas les personnes, c'est effectivement la politique qui est conduite, effectivement, et l'analyse politique qui conduit éventuellement à une stratégie d'action. Parce que ce qui nous paraît évident, c'est que tu dois allier les réflexions théoriques et politiques pour conduire des actions. Sinon, ça présente pas grand intérêt. En tous les cas, ça peut pas aboutir à effectivement un mouvement, je dirais, fort pour la régularisation des sans-papiers. Et au-delà de la régularisation des sans-papiers, la question des droits, tout simplement, aujourd'hui, c'est-à-dire les droits aussi bien sociaux que les droits économiques, civiques, politiques, ouais, culturels, etc. Je crois que c'est une question beaucoup plus vaste.
Pendant les élections...
Chevènement m'emmerde, donc j'ai pas envie d'en parler.
Pendant les élections municipales, on a vu le DAL qui avait investi beaucoup de qui avait investi beaucoup de des locaux des partis de gauche, de la gauche plurielle. On voit aujourd'hui avec les plans sociaux qu'on est plutôt face à une débauche plurielle. On parlait des sans-papiers comme étant des gens qui venaient par l'immigration. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une paupérisation de plus en plus grande de tout le monde. Est-ce que le débat maintenant n'est pas beaucoup plus large, et est-ce qu'on arrive à dépasser justement ce que tu disais, Annie, ce débat sur les sans-papiers? C'est un débat politique qui maintenant dépasse largement le traitement et le cas de gens qui viennent chercher du travail en France.
Sur la question logement, en ce moment, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Mais on sait que maintenant, la politique se fait beaucoup par communication. Et en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Il y a plus de journalistes que de militants nos jours, malheureusement. Il faudrait compter les cartes. Peu importe, il y a beaucoup d'effets d'annonce. On a reparlé de la réquisition. On reparle des critères d'attribution, de faire des critères objectifs d'attribution. On est quand même dans le logement, un peu au cœur du problème. Il y a quand même eu un effort militant maintenant d'une dizaine d'années qui porte ses fruits, c'est-à-dire que les sujets sont réellement sur la table et on a l'impression que les militants se font plus avoir. Il y a un côté comme ça, ce qui veut dire que droit au logement, à mon avis, a une chance, une potentialité s'il reste excessivement vigilant en maintenant les actions, une certaine radicalité qui dans le contexte politique français est absolument nécessaire, doit arriver normalement à sortir du concret. Les politiques municipales sont assez importantes sur le logement, et c'est vrai que la situation de la gauche à Paris, du point de vue municipal, du point de vue régional et du point de vue du gouvernement, crée un alignement de trois institutions qui va gérer pendant un an, et il faut mettre la pression maximum pendant ces un an là pour sortir du concret. Je crois que les luttes des l'intérêt des mouvements sociaux, quoi qu'il en soit, c'est quand même de sortir du réel. Et là, il y a une possibilité, mais enfin, bon, faut être excessivement vigilant. Il y a beaucoup de thèmes qui sont débattus. Il y a des choses qui sont favorables. En même temps, on entend parler de la suppression du contingent préfectoral, ce qui veut dire que le préfet n'aurait plus d'attribution à lui, et tout resterait, grosso modo, sur les sociétés HLM elles-mêmes et sur les maires. C'est excessivement dangereux parce que quand même l'État est le premier redevable du droit au logement. C'est-à-dire, même si effectivement la loi Besson dit le droit au logement c'est un devoir qui intéresse la nation française, il n'empêche que les préfets sont quand même les mieux placés, tiennent le bâton, quoi. Ils tiennent un peu de la carotte, mais ils tiennent essentiellement le bâton. Donc supprimer ça, c'est un recul énorme. Donc ça veut dire qu'on est en ce moment en train de manipuler des concepts qui vont du pire. Au meilleur. On se retrouve dans la même situation sur le problème de la mixité sociale, où on a pas mal de familles immigrées, encore des immigrés, qui, il faut le rappeler, n'ont pas le droit de vote en France, dernier pays européen avec la Grèce à pas l'avoir, se retrouvent évidemment avec des revenus de temps en temps, viennent avec des dossiers pour des attributions HLM et sont refusés en fait sur des critères racistes, quoi. Ça continue, c'est un peu la même histoire. Bon, mais ceci dit, c'est la lutte, faut continuer, faut mettre des actions, faut leur mettre les situations sous le nez. Il y a encore des taudis, il y a des gens qui vivent dans des situations épouvantables dans ce pays, faut continuer.
Enfin, moi je voudrais dire que c'est encore plus méchant et plus dégueulasse que ça. Parce que la relégation, notamment sur la question du logement, c'est une des questions effectivement un peu centrales. Parce que quand on parle de la mondialisation, de ses conséquences, enfin, c'est d'abord et avant tout, faut comprendre que depuis 20 ans, ils ont carrément privatisé les sociétés HLM. Alors c'est logement français, machin, etc. Enfin, et que leur critère, c'est 90 balles par jour par personne pour pouvoir se loger. Et qu'en conséquence, ça veut dire que l'ensemble des gens qui sont ou dans la pauvreté, parce qu'aujourd'hui il y a des salariés pauvres, mais des gens qui sont dans la pauvreté, c'est-à-dire à peu près 12 millions de Français, n'auront plus accès au logement social, quoi. Concrètement, c'est ça. Alors il reste quoi ? Il reste le parc public, vieux, ancien, machin, où tu payes pas grand-chose, mais qui est constitué essentiellement de parcs situés dans la grande banlieue, la cité avec tout ce qu'on sait aujourd'hui de la cité, qui seront effectivement des lieux de relégation, et encore t'auras juste le droit de fermer ta gueule puisque de toute manière c'est ça où t'as rien. Alors et puis comme il y a une pression sur l'immobilier, évidemment les marchands de sommeil en profitent. Alors les marchands de sommeil, c'est les taudis avec les rats et machin à 3500 balles. Et ce qui est absolument génial, c'est que ce gouvernement qui annonce toujours, qui fait beaucoup dans le sociétal, il a dit une chose intéressante il y a pas très longtemps, le 14 décembre, ils ont sorti une loi qui dit, bah voilà, si les allocations familiales va vous supprimer l'allocation logement parce que vous êtes trop nombreux dans un petit logement. Hein? Donc, vous êtes trop nombreux, alors on vous la supprime. Alors, tu auras le droit éventuellement de faire appel à la commission. Si la commission dit évidemment non, il n'y a pas de raison que l'administration dise oui à quelque chose qui est prévu en texte de loi pour dire non, vous pourrez toujours demander au préfet d'appliquer l'obligation de relogement. Alors quand tu vas voir le préfet, c'est drôle, on l'a fait il y a 15 jours, le mec il te dit, ah bah ouais, mais moi j'ai pas de solution, puisque de toute façon c'est contradictoire avec la loi qui dit qu'il y a que 10% du parc HLM qui doit être réservé aux plus défavorisés. Manque de bol, il y a plus de 10% de pauvres. Alors ça colle pas, tu vois. Donc on est dans un espèce de truc aussi épouvantable que ça, où t'as effectivement, c'est plus que de l'effet d'annonce, c'est carrément, on fait dans le discours sociétal, et la réalité c'est que de toute façon les pauvres, plus on ira les mettre loin et plus on les rendra invisibles, mieux ça sera.
prochaine manifestation de droit au logement, qu'est-ce qui s'annonce?
Ah, il y en a tous les 15 jours. Alors c'est ça qui est vachement bien, c'est que t'en as tous les mercredis, tous les 15 jours, t'as les actions. Alors une fois sur la flotte qu'il y a pas dans les bâtiments, une fois sur l'électricité, une fois sur la salubrité, une fois sur le plomb, une fois etc. Donc c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre dans l'espace public l'ensemble des problèmes qui sont liés au mal logement.
Cœur d'Indie Media sur une compilation de musique électronique pour supermarché, ça s'appelle Cashier Escape Route. Une compilation de musique électronique, une compilation de musique électronique moderne pour supermarché. On écoutait tout de suite Scan From Electronic Supermarket. Alors déjà on aime bien Indie Media, puis ça nous permet peut-être de revenir un petit peu sur Auchan dont on a réussi à se procurer quelques notes internes. Réunion d'encadrement Auchan France datée du 24 octobre 1996. Voilà, donc je vous félicite tous pour votre adaptation collective et individuelle compte tenu de cette nouvelle organisation. C'était après le rachat du groupe Doc de France par Auchan. Je vous remercie par avance d'en être les porteurs, les moteurs exemplaires vis-à-vis de chacune de vos équipes malgré les difficultés que vous ne manquerez pas de rencontrer. Alors, il y a des choses assez marrantes justement dans ces notes dirigées à l'encadrement de Auchan. On savait qu'ils étaient un petit peu cathos, mais on peut relever quand même un lapsus dans le chapitre 3 intitulé « La performance est le préalable du développement ». On voit que Auchan sait construire à la fois une entreprise avec colonne vertébrale forte et flexible et innovante. Et ce qui est assez drôle, c'est que le mot foi est écrit non pas F-O-I-S, mais foi F majuscule O-I. Donc il s'agit vraiment d'avoir une foi complètement incroyable en entreprise. C'est-à-dire que Auchan, bah, c'est Dieu, monsieur Gérard Muliez probablement. Voilà, c'est donc un petit extrait des notes internes d'Auchan qui sont disponibles en intégralité, si ça vous intéresse, sur france.indymedia.org.
Media 1 1 1
solo
media 1 1 1 deadly 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 media 1 media. One media. One deadly media. One media. One deadly media. One media. One deadly media.
France.indymedia.org, l'émission de radio, c'est terminé. On essaye de vous en présenter une tous les 15 jours, si tout va bien. De toute façon, sinon, toutes les infos sont sur le site. Et puis, vous pourrez trouver les références de musique, les petites notes internes, et puis quelques résumés de ce qu'on a pu se dire ce soir. En espérant vous retrouver très bientôt. Bonsoir.